Tout d'abord, j'aimerais vous dire toute la joie qu'il y a eu dans mon cœur à partager cette mission avec vous, dans la présence du Seigneur. Je me suis réjoui de votre assiduité à toutes ces réunions, de l'attention que vous avez portée à la parole de Dieu. C'est toujours plus réconfortant pour un pasteur de prêcher devant une salle pleine que devant des chaises vides. Et je me suis réjoui de partager la communion fraternelle avec mes collègues pasteurs et aussi avec les uns et les autres, même si nous ne nous connaissons pas tous. Nous savons que les mêmes liens de l'Esprit nous unissent dans le Seigneur. Et nous garderons, c'est certain, un excellent souvenir de cette mission ici à Béziers. Et puis mon épouse et moi, nous voulons vous remercier une fois encore pour la chaleur de la communion fraternelle. Je l'ai dit, non pas pour les petits plats, mais pour les grands plats. Parce que je ne sais pas si vous savez faire, vous, les petits plats. Hein. Merci en tout cas pour tous ceux qui, avec beaucoup d'amour fraternel, ont préparé d'excellents repas pour nous. Nous sommes très sensibles à cela. Et au fur et à mesure de nos missions, nous notons les églises, les collègues pasteurs, les besoins des frères et sœurs, la liste s'allonge et chaque jour nous prions pour votre peuple, pour les assemblées, afin que le Seigneur poursuive son œuvre au milieu de vous. On a ramassé un jour dans la rue d'une petite ville un enfant mourant de faim. Et après l'avoir baigné et habillé et placé dans un lit, des infirmières sont venues apporter un plateau devant ce petit garçon avec toutes sortes de nourriture. Et sur le plateau, il y avait un grand verre de lait. Et le jeune garçon a posé aux infirmières une question qui leur a brisé le cœur. Il leur a demandé s'il pouvait boire tout. Et nous devrions nous comporter devant le Seigneur ce matin, non pas comme un peuple qui serait habitué à se nourrir très peu, comme un peuple qui n'aurait pas le droit ou la possibilité de se nourrir, alors que Dieu a préparé pour nous des mets gras et succulents. Nous devrions au contraire être pleinement persuadés que Dieu désire nous rassasier, que Dieu est le Dieu de l'abondance. La parole de Dieu nous dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui faire cette prière de l'Ancien Testament réclamant à Dieu une double portion de son esprit. On ne voit pas cela dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, il est question d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu reste toujours le Dieu de l'abondance. Et ce matin, il veut certainement combler nos vies. J'aimerais une fois encore relire tout le texte qui a servi de base à cette mission dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, et nous lirons verset 14. Si vous pouvez suivre la lecture de la parole de Dieu, faites-le. Sinon, écoutez Éphésiens, chapitre 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et voilà alors la quatrième richesse pour laquelle l'apôtre Paul fléchissait les genoux devant le Père, la quatrième richesse dont Dieu veut faire de nous les bénéficiaires, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est le niveau suprême. On pourrait dire c'est le sommet vertigineux. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et j'imagine ce qui peut se passer dans votre cœur à la lecture de ce verset ou à l'écoute de ce verset. Si nous sommes honnêtes, avouez que devant cette affirmation de la parole de Dieu, il y a comme un recul naturel, une sorte d'hésitation, pour ne pas dire de doute, d'incrédulité, de réserve. Est-ce qu'au fond, si nous voulons bien l'avouer ce matin pour chacun de nous en particulier, est-ce que la plénitude de Dieu ne nous paraît pas inimaginable? Est-ce que la plénitude de Dieu ne nous paraît pas irréalisable dans notre vie? Si nous sommes honnêtes et que nous réfléchissions à notre cœur, nous pouvons dire, mais Seigneur, est-ce vraiment possible que je sois rempli jusqu'à toute ta plénitude? Est-ce que la barre n'est pas un peu haute? Est-ce que le programme n'est pas un peu trop copieux? Est-ce que tu ne te serais pas trompé par hasard? Est-ce que tu n'aurais pas suffisamment réfléchi à ce qu'est le cœur humain, notre faiblesse, nos impossibilités? Voilà que tu me proposes d'être rempli jusqu'à toute ta plénitude. Je prie pour que la parole de Dieu ce matin nous aide à croire que c'est possible et que nous puissions les uns et les autres entrer de bon cœur et avec foi dans le programme de Dieu. Vous savez, si nous ne sommes pas remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, nous allons être remplis d'autre chose. Parce que la nature a horreur du vide. Prenez une très excellente bouteille de Bordeaux. Si la bouteille de cet excellent vin de Bordeaux n'est remplie qu'à moitié, et qu'avec l'autre moitié, vous combliez le vide en mettant du vinaigre, vous n'aurez plus un excellent vin. Par contre, si la bouteille est remplie de cet excellent vin, il n'y aura pas de place pour y mettre autre chose. Et nous devons déjà réaliser ici l'intelligence de Dieu qui désire pour nous ce qui est le meilleur et qui veut nous garantir de tout ce qui peut nous faire du mal. Le diable sait très bien que la nature a horreur du vide et que le cœur de l'être humain a toujours besoin d'être comblé, d'être rempli. Et Dieu me donne ici le secret de la vraie vie. Et il désire en quelque sorte me convaincre que le bonheur pour moi, le véritable épanouissement, la véritable réussite, c'est qu'il parvienne à m'attirer jusqu'à lui afin de me remplir jusqu'à toute sa plénitude, afin que dans ma vie, il n'y ait pas un territoire, une parcelle qui resterait vacante, qui resterait vide, et dans laquelle le diable pourrait déverser ce qui est mauvais. Je dois donc me dire, mais Dieu a raison. Pour ne pas être rempli d'autre chose, la seule solution, c'est de chercher à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur, dans cette épître aux Éphésiens, me charge d'un programme qui est encore plus complet que celui qui apparaît dans ce texte. Dans ce texte que nous méditons depuis jeudi soir, il est question d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il s'agit de Dieu le Père. Je tourne une page de ma Bible. Je suis toujours dans l'épître aux Éphésiens. Et dans le chapitre 4 de cette épître, pour ceux qui ont leur Bible encore ouverte, dans ce chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre parle de Christ qui a fait des dons aux hommes. Il parle des ministères, des différents ministères qu'il a donnés à l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et il dit que le but de ces ministères, c'est le perfectionnement des saints. Et au verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi » et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à une maturité spirituelle, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais le texte grec dit « à la mesure de la stature de la plénitude de Christ ». À la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Alors voilà qu'après m'avoir parlé au chapitre 3 d'être rempli de la plénitude de Dieu le Père, la parole de Dieu me conduit vers une autre plénitude, c'est la plénitude de Christ. Et puis je tourne encore une page de ma Bible, et j'arrive au chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens, et il est dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Il s'agit maintenant de la plénitude du Saint-Esprit. Le programme est extraordinaire. Dieu désire déposer dans mon cœur ce matin la plénitude de Dieu le Père. La plénitude de Christ et la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien, il y a du chemin à faire. Mais c'est quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose de merveilleux. Nous en resterons pour ce matin à la plénitude de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'elle est exactement? Nous en entrevoyons dans l'Épître quelques aspects. Je me permettrai de rappeler quelques versets qui ont été cités dans les réunions précédentes. Par exemple, au chapitre 1er, l'apôtre Paul fait allusion à la gloire de la grâce de Dieu. Il est question, toujours dans le chapitre 1er de l'épître aux Éphésiens, de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Il est question au chapitre 2 d'un Dieu qui est riche en miséricorde. Il est question au chapitre 2 encore de l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et au chapitre 3, il est parlé de la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce sont là quelques aspects de sa plénitude. Et je ne me lasse pas de le redire ce matin, le but de Dieu pour ta vie et pour ma vie, c'est de mettre en nous toute la plénitude divine. Alors maintenant, j'aimerais vous encourager. Il faut sortir de nos hésitations, de nos doutes devant ce programme et vous dire que cette plénitude ne sera jamais totale ici-bas dans notre expérience. Et vous allez dire, ouf, enfin une bonne parole depuis jeudi soir. Il ne faut pas que ce que je dis là nous tranquillise dans la médiocrité. Nous sommes dans une réalité. Il ne faut pas rêver. La plénitude de Dieu ne sera jamais totale dans notre cœur ici-bas. Mais notre responsabilité, c'est d'avancer de progrès en progrès. Je peux toujours avancer vers la plénitude de Dieu. Je peux toujours avancer dans la plénitude de Christ. Et je peux chercher à être toujours plus rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre à l'église de Philippe, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il y a donc une œuvre de progrès qui se manifeste dans notre vie, jour après jour. L'apôtre Jean a écrit dans sa première lettre, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ne sommes pas encore pleinement semblables à lui. Nous ne le serons que lorsque nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes en devenir. Toute l'Écriture, tout l'enseignement apostolique me place devant cette réalité. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors, je sais que cette plénitude de Dieu ne sera jamais atteinte là sur la terre, dans cette marche avec lui, mais je me dis, Seigneur, comme le dit l'apôtre, ou comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, tendons à la perfection. Et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux me demande de tendre à la perfection, c'est que je ne l'ai pas atteinte. Il faut que nous comprenions que nous sommes sans cesse en devenir, que du stade de nouveau-né spirituel, nous passons au stade d'enfant, puis de jeune, jusqu'à arriver à la maturité spirituelle. Il en est ainsi de la plénitude de Dieu. D'ailleurs, remarquez ceci, Paul dit, « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Il y a donc un devenir, il y a une marche de progrès en progrès, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je reviens à ma bouteille de Bordeaux. Quand le producteur l'a rempli, bon, je veux bien croire que ça va vite, mais permettez-moi cet exemple. La bouteille ne va pas être remplie en un millième de seconde. Le vin excellent va couler tranquillement dans la bouteille et au fur et à mesure, la bouteille va se remplir jusqu'à être pleine. Il y a un progrès, il y a un devenir. On remplit jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et Paul dit, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu as déversé dans ma vie. Béni sois-tu pour le stade auquel je suis parvenu aujourd'hui. Et je suis plein d'espérance. Je place ma confiance en toi, je me fortifie en toi, parce que je crois que ça va aller de mieux en mieux. Je vais marcher de force en force. Je marche dans l'espérance de la gloire qui vient. Et en attendant ce moment où je serai finalement semblable à toi, eh bien, je me laisse remplir, je me laisse remplir, je me laisse remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que cette plénitude est parfaite dans la révélation de Christ. Christ est parfait. Et la révélation de la plénitude dans le Seigneur Jésus est parfaite. La parole de Dieu dit de Jésus qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous n'en doutez pas de ça. La plénitude de Dieu dans le Christ n'est pas en devenir. Dans la personne de Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Et juste après, l'apôtre ajoute, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais le texte original dit, nous sommes accomplis en lui. Il est certain que la plénitude de Dieu habitant dans le Christ, si moi je vis dans le Christ, eh bien, plus je vais découvrir Jésus, comme nous le disions dans les réunions précédentes, plus je vais me laisser envahir par Jésus, plus il va habiter en moi, c'est-à-dire gouverner ma vie, plus je vais être rempli de la plénitude de Dieu. Je vais vous prendre une image pour vous faire comprendre ça. Imaginez un prince héritier. Il héritera d'un magnifique château. Ce prince héritier n'a que quelques semaines, c'est un bébé. Il est dans un château qui est à lui. Mais il n'est que dans un berceau. Il n'évolue que là. L'enfant, le jeune bébé, devient un enfant, capable tout juste de marcher à quatre pattes. Alors il va bénéficier, dans le château qui est à lui, de la pièce où il se trouve, pouvant évoluer là comme un jeune enfant. Et quand il sera adulte et qu'il aura grandi, il va réaliser que le château est à lui. Il pourra évoluer dans la plénitude de ce château. Quand il avait quelques semaines, le château était là, dans sa plénitude pour lui, mais il avait besoin de grandir pour s'emparer de ce qui est à lui, pour mettre la main sur ce qui est à lui. Alors je veux bien croire que quand Dieu nous regarde dans le Christ, il nous regarde avec satisfaction, parce qu'il nous voit au travers de Jésus, ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas de progrès à faire. Bien au contraire, il faut que dans le Christ, étant dans le Christ, comme le prince héritier dans le château, nous grandissions. Parce que plus nous allons grandir, plus nous allons prendre conscience de ce qu'est Christ, plus nous allons nous laisser envahir de ce qu'est Jésus, nous allons prendre notre héritage en lui, et la plénitude de Dieu qui habite parfaitement dans le Christ va progressivement nous envahir. Il faut donc que nous avancions à cet égard de progrès en progrès, persévérant dans la recherche de cette plénitude. Il faut que nous réalisions, chacun pour notre part, qu'il n'y a pas de limite à notre développement spirituel. Mon frère, tu n'es pas arrivé. Ma sœur, tu n'es pas arrivé. Tu es baptisé depuis 6 mois. Oh là là, le chemin est encore long. Tu es baptisé depuis 60 ans. Oh là là, le chemin, comme il est encore long. Parce qu'au fond, quand on regarde derrière soi les quelques dizaines d'années qu'on a marché avec le Seigneur, qu'on fait le compte de nos erreurs, de nos manquements, de nos lacunes, toutes les fois on a déçu le Seigneur, il n'y a pas de quoi être fier. Nous ne sommes jamais arrivés. Jamais, jamais. Ce programme-là nous oblige à être humbles. Et ce programme-là nous pousse en avant. Nous sommes continuellement en devenir. Il n'y aura pas de limite à notre développement spirituel. Alors ce qui vous intéresse, je pense, c'est le point pratique. Quels sont les moyens à notre disposition pour vivre cette plénitude? Comment faire pour progresser? Je crois qu'il y a d'abord l'aide du Saint-Esprit. Rappelez-vous, la première richesse dont les autres dépendent, être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Permettez-moi une image. Lorsque Isaac était encore dans son pays et qu'Éliézer est allé chercher Rebecca, la future épouse, pour l'amener vers Isaac, Éliézer est dans cette démarche un symbole, un type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient vers la future épouse et qui la prépare et qui l'amène progressivement vers l'héritier de toutes choses, Isaac étant un type de Jésus-Christ. Quand Éliézer rencontre Rebecca près de la source, et qu'il a compris que c'est elle qui est la future épouse d'Isaac, il ouvre les trésors et il commence à embellir Rebecca. Quand il arrive dans la maison de Laban, il poursuit, il ouvre encore ses trésors et il enrichit Rebecca, il enrichit la maison de Rebecca. Et c'est ce que veut faire le Saint-Esprit en faveur de la future épouse que nous sommes. Le Saint-Esprit désire ouvrir les trésors de celui qui l'envoie. Et celui qui l'envoie, c'est Christ. Le Saint-Esprit est riche de la richesse de Dieu le Père. Et en venant rencontrer l'Église, il désire l'embellir. Il désire la fortifier. Il désire la remplir. C'est le travail du Saint-Esprit et c'est pourquoi Paul disait: mais que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que quand le Saint-Esprit vient dans la première Église, il vient avec les richesses du Père. Il donne de la puissance aux apôtres pour le témoignage à rendre à Jésus, la puissance pour la prédication. Avez-vous remarqué que les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit dans des périodes de persécution comme à Antioche étaient néanmoins remplis de joie et du Saint-Esprit? Avez-vous remarqué que lorsqu'il s'est agi d'élire les diacres, on appelle les diacres à tort parce qu'on a francisé le mot grec, il aurait fallu traduire les serviteurs dans un sens matériel, peu importe. Quand il s'est agi d'élire les diacres, on a cherché des hommes pleins du Saint-Esprit et de sagesse, parce que le Saint-Esprit, en venant, il est capable aussi de communiquer la sagesse. Le Saint-Esprit vient donc dans ma vie avec les richesses de Dieu le Père, et il travaille à me conduire vers la plénitude de Dieu. Plus je vais chercher à être rempli du Saint-Esprit, plus je vais tendre vers la plénitude de Dieu. Combien de temps passons-nous pour rechercher devant la face du Seigneur la plénitude de l'Esprit ? Souvent nous sommes devant lui pour intercéder pour nos besoins, pour les besoins de notre épouse, de nos enfants, de notre Église, de notre ministère, de notre santé, nos besoins matériels, financiers. Mais combien de temps passons-nous à ses pieds pour que lui ait la possibilité de travailler à déverser sa plénitude dans nos cœurs ? Combien de temps passons-nous à parler en langue devant lui ? L'apôtre Paul déplorait à Corinthe un abus du parler en langue publique. Et il disait, mais parlez en langue chez vous et dans l'Église, parlez dans votre langue maternelle. Néanmoins, Paul, voulant faire comprendre qu'il n'était pas contre le parler en langue, disait, mais je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est dire le temps que l'apôtre Paul passait dans sa piété privée à parler en langue devant le Seigneur. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Il s'édifie lui-même. On ne comprend pas ce qu'on dit, mais plus on parle en langue, plus on s'édifie soi-même. Il y a là une force qui nous saisit. Il y a là un renouveau qui s'empare de notre être. Et il faut que nous soyons de véritables pentecôtistes, non pas de nom, appartenant aux Assemblées de Dieu de France ou au mouvement Vie et Lumière, reconnus pour des mouvements pentecôtistes, mais il faut que nous soyons des pentecôtistes d'expérience et que nous passions beaucoup de temps devant la face de Dieu à parler en langue. Nous ne pouvons pas faire que ça. Mais nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit s'emparer de nous, ouvrir notre cœur à l'action de l'Esprit, permettre au Saint-Esprit de nous enseigner, permettre au Saint-Esprit de nous parler. C'est lui la source indispensable, véhiculant dans notre cœur la plénitude de Dieu. L'autre moyen, c'est la foi. Parce que les ressources sont là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont là dans la personne de Christ. Toute la plénitude de la divinité est en Christ. Si ce Jésus-là habite dans mon cœur, il va évidemment apporter la plénitude de Dieu. Et c'est à nous de saisir ces ressources divines par la foi. Je vous encourage en vous disant que ce ne sera pas par nos efforts humains. Laissons-les de côté. Ce ne sera pas par nos efforts charnels, mais ce sera par la foi. Dieu attend son peuple sur le terrain de la foi. Je l'ai dit hier, Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ». Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. N'oubliez jamais ce que je vais dire maintenant. Vous êtes ce que vous croyez. Et vous allez devenir ce que vous croyez. Ça fonctionne comme ça. Si je crois que je suis médiocre et que je vais rester médiocre, soyez sans crainte, ça va arriver. Il faut que nous gardions au moins ça. Je suis ce que je crois. Et je vais être ce que je crois. Ah, Seigneur, je crois. Et il y a la suite que je ne pourrai jamais. Et Dieu sur son trône dit, t'as raison, tu pourras jamais. crois que c'est à Narbonne que j'ai dit ça, je sais plus. Je sais plus comment je vis, je suis tellement parmi les gitans que je sais plus. Enfin, le frère Jeannot me dira si c'est à Narbonne. Quand j'ai parlé de l'officier du roi, le roi s'appuyait sur son bras, c'est pas rien. On était en pleine période de famine, et voilà que le prophète dit, demain il y aura à manger, à satiété, tout le monde va pouvoir se rassasier. Mais on en était au point que les gens mouraient de faim dans la ville. Excusez-moi, mais la Bible dit, on était au point où on mangeait les excréments. Il y a des mamans qui faisaient cuire leur bébé pour le manger, c'est écrit. Et Dieu avait prévu ces temps-là quand son peuple l'abandonnerait. Et voilà que le petit prophète, là, l'homme de Dieu, se ramène là, avec ses illuminations. Et il dit, mais demain vous allez manger et vous allez être rassasiés.
Et l'officier du roi.
Ah bon, on va manger demain. Dieu ferait-il des fenêtres au ciel par hasard ? Et le prophète de Dieu est resté dans son calme olympique. Il lui a dit, mais demain ça va arriver, mais toi tu n'en mangeras pas. Et quand la nouvelle est arrivée le lendemain, que l'ennemi avait tout laissé sur place parce que Dieu avait fait entendre un bruit, le bruit d'armée, ils étaient tous partis, ils avaient tout laissé. Quand des lépreux, 4 lépreux sont venus dire, mais vous pouvez sortir de la ville parce qu'il y a à manger, il y a de la nourriture partout. Le peuple qui avait faim, vous comprenez ça, est sorti. Et l'officier sur le bras duquel s'appuyait le roi a été écrasé par le peuple. Il a été et il est devenu ce qu'il croyait. Lui, il s'est dit devant le bon message de Dieu, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Eh bien, il lui a été fait selon sa foi. À l'heure du miracle, à l'heure de la visitation, à l'heure de la bénédiction, il a été écrasé. C'est donc à nous de saisir ces ressources par la foi. Ne discutons pas avec le Seigneur, ne doutons pas du programme de Dieu, mais croyons-le. Et avec un tel programme divin pour notre vie spirituelle, nous sommes au moins délivrés d'une lèpre qui a tendance à s'attacher à nos pas, c'est de nous comparer aux autres chrétiens. Ah, je vous promets que si on entre dans ce programme-là, on n'aura plus le temps de se comparer aux autres. Le Seigneur nous rappellera constamment, mais... qu'en est-il de ta vie par rapport à la plénitude de Dieu ? Le problème n'est pas de te comparer à ton frère, à ta sœur, pour savoir si tu es 2 ou 3 mètres plus en avant que lui. Ce n'est pas ça le programme, c'est de regarder par rapport à ce que Dieu veut pour ta vie, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, la plénitude de Christ, être rempli du Saint-Esprit. Alors je regarde devant moi, et puis je vois un frère à 50 mètres devant dans la course. Et je ne me décourage pas. Je me dis, mais si lui est arrivé là, moi aussi j'y arriverai. Et puis je me retourne. Enfin, il vaut mieux pas se retourner quand on court parce que... Enfin, ça nous arrive de nous retourner. Il dit, ah, la petite sœur, elle est... Il me semble qu'elle est derrière moi. Mais au lieu de la mépriser, eh bien, je vais espérer pour elle. Et je me dis, moi, si je suis arrivé là, elle y arrivera aussi. Mais de toute façon, qu'il y en ait derrière ou qu'il y en ait devant, le problème n'est pas là, parce que le but, il est encore bien loin. Le but, c'est le ciel. Et on est tous en train de courir pour arriver un jour jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oui, la plénitude est possible grâce à l'action de Dieu en nous. Je vais terminer, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce serait beaucoup trop long. Mais avez-vous remarqué, je vais être très court, mais avez-vous remarqué ce que Paul ajoute après tout ça ? Comme pour nous dire, écoutez, je ne suis pas un pasteur qui ait fixé la barre trop haut. Paul semble dire, voilà ce que Dieu désire pour votre vie, je l'ai bien compris, j'en ai eu la révélation, je prie pour ça, je prie pour vous, mais ne vous découragez pas. Comme si c'était irréalisable. Paul ajoute au verset 20. à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. Après avoir découvert le programme de Dieu, il nous convient chacun pour notre part de méditer ses paroles, de réfléchir et de prier. Pouvons-nous vraiment suivre ce programme-là? Est-ce que ce matin, Seigneur, mon cœur est rempli de doutes, rempli d'hésitations, rempli de résistance? Est-ce que devant ce texte de l'Écriture, finalement, je ne me sens pas indigne? Si nous réfléchissons à nous-mêmes, il nous semble impossible d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous sommes si faibles. Et c'est pourquoi l'apôtre affirme que Dieu est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous sommes impuissants, mais Dieu peut tout accomplir en nous par son Esprit. Et c'est là la solution. Notez bien la richesse des paroles de Paul dans ce verset 20. Chaque mot nous transmet la grandeur du pouvoir de Dieu en Jésus-Christ. Dieu peut faire. Il commence par dire ça. Dieu peut faire. Ce que Dieu promet, ce que Dieu ordonne, il peut aussi l'accomplir. Ce n'est pas par tes propres forces, mon frère. Ce n'est pas par tes résolutions, ma sœur. Dieu peut faire. Il faut que nous ouvrions notre cœur. Il faut que nous abandonnions notre volonté personnelle et que nous laissions la puissance de l'Esprit agir en nous. Paul écrivait aux Philippiens, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Je suis le cep. Vous êtes les sarments. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, eh bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sarment ne commence pas sa journée quand le soleil se lève en disant « Oh là là, pourvu que je porte du fruit !» Le sarment, il vit tranquille. Il fait corps avec le cep. La vie du cep, c'est la vie du sarment. C'est la même vie. Ce qui coule dans le cep et qui le fait vivre, c'est ce qui coule dans le sarment et qui le fait vivre. De telle sorte que le sarment ne se pose pas de problème, de questions. Il ne fait pas d'ulcère à l'estomac pour savoir s'il y aura des grappes de raisin un jour. Il sait que sans le cep, il ne peut rien faire, mais étant un même corps avec le cep, il portera du fruit. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, tout devient possible. Dieu peut faire. Le mot employé ici est un mot qui, dans notre langue française, a donné le mot « énergie ». Dieu est un Dieu qui a de l'énergie. Il a de l'efficacité. Et il faut que nous puissions réaliser que cette énergie divine, cette capacité que Dieu a d'agir, peut être inactive. Parce qu'elle peut être disponible pour nous, mais non pas utilisée. Ils ont eu du mal, je crois que c'est le deuxième soir, parce qu'on n'arrivait pas à voir le son dans la colonne, là. Alors, ils ont tripoté un bon moment, et moi, à ma place, je me disais, oh là là, s'il n'y a pas de sono, comment on va faire? Jusqu'au moment où il y en a un des frères qui s'est rendu compte que ce n'était pas branché. La puissance est là, parce que l'électricité, c'est une puissance, c'est une force, elle est là, disponible. mais faut se brancher. Dieu peut faire. Il y a de l'énergie en mon Dieu. Suffisamment d'énergie pour réaliser son programme qui nous préoccupe depuis jeudi soir. Mais je vais le dire comme ça. Est-ce que tu es branché sur Dieu? Est-ce que tu es branché sur Dieu? En ayant une communion véritable avec lui? Ou est-ce que la source d'énergie est coupée par manque de foi? Par un péché non confessé? Par une vie non conforme à lui? Par une vie mondaine? Dieu peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Le mot du texte original pour puissance, c'est le mot qui donne en français le mot dynamite ou dynamique. Dieu est un Dieu d'énergie et il y a chez lui de la dynamite. Il est capable de faire sauter les rochers de mon cœur. Il y a chez mon Dieu de la dynamite, de la puissance. C'est un Dieu dynamique. Et c'est une puissance dont nous avons besoin si nous voulons vivre, si nous voulons combattre, si nous voulons vaincre. Paul sait de quoi il parle quand il dit que cette puissance-là a été à l'œuvre dans sa vie pour faire de lui le ministre de l'Évangile. Alors après, on n'est pas étonné de ce qui suit. Dieu peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment. Infiniment. C'est la vraie dimension de Dieu. Au-delà, Dieu dépasse toute compréhension. Dieu dépasse toute appréciation humaine. Notre Dieu, c'est un Dieu qui va au-delà. Écoutez, c'est déjà pas mal. Quand les disciples étaient dans la tempête en train de paniquer et qu'à un moment donné, il arrive, marchant sur les eaux. C'est déjà bien. Ils croyaient voir un fantôme. Il vient les secourir et eux, ils se disent, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que ça, un fantôme? Alors ils crient. Et l'évangéliste qui rapporte ce texte nous dit que Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais il n'a pas dit ça. Le texte original dit « Rassurez-vous, je suis ». C'est-à-dire qu'il vient en marchant sur les eaux et lui, le Fils de l'homme, ose s'appeler le « Je suis ». Le « Je suis » d'Exode 3. C'est d'ailleurs pourquoi plus tard ou avant et après, les Juifs ont cherché à le faire mourir. Pour eux, c'était un blasphème qu'un homme puisse prendre le nom de « Je suis » qui est le nom de l'Éternel dans Exode 3. Mais n'empêche que cette nuit-là, il vient comme le Dieu qui secourt les siens dans la tempête. Rassurez-vous, je suis. C'est déjà beaucoup. Mais alors j'ai été surpris parce que quand il arrive là, il est dit qu'il voulait les dépasser. Notre Dieu nous étonnera toujours. Il est le je suis, il marche sur nos vagues, il avance contre les vents qui nous arrêtent, nous. Et non seulement il est capable de faire ça, mais lui, il peut nous dépasser. Heureusement que Jésus est un Jésus qui nous dépasse. Heureusement que Jésus est un Jésus qui va plus loin que ce que nous demandons ou pensons, j'anticipe. Infiniment au-delà, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Au-delà de quoi? De tout ce que nous demandons. Et pourtant, on en demande des choses. Ce soir, si vous êtes à Narbonne, je vous parlerai d'un Dieu qui, avec Abraham, est allé au-delà de ce qu'Abraham demandait pour Sodome. Pourtant, il a osé, dans sa prière, aller jusqu'à ce qu'il pensait être une limite. Mais Dieu est allé au-delà. Je bénis Dieu de ce que, dans sa grâce, il va au-delà de ce que nous demandons. Où pensons? Parce qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu et on lui en demande des choses. Il y a des choses... Allez, ou alors je suis un Je suis un être exceptionnel dans ce domaine-là. Vous allez me prendre en photo, vous allez dire « pauvre gars ». Mais il y a des choses, avouons-le, on n'ose pas les demander. On y pense, mais on se dit quand même, est-ce que t'es pas un peu trop gourmand là? Non, il n'y a qu'à moi que ça arrive ça. On n'ose pas. On le pense, mais on n'ose pas. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et que nous n'exprimons jamais. Le Seigneur est capable de dépasser tous nos désirs spirituels, nos plus hautes imaginations. Non, ce n'est pas un programme irréalisable. Irréalisable pour nous, oui, mais pas irréalisable pour lui, et pas irréalisable pour lui en nous. Et Paul avait compris ça quand dans une situation particulière, mais c'était vrai, comme une ligne constante dans sa vie, à un moment donné, il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui, mon frère, ma sœur, tu avanceras jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais oui, tu le feras, parce qu'il t'aidera à le faire. Jour après jour, il va te donner la force et la victoire dont tu auras besoin. Que son nom soit glorifié. Amen. Ô Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es ce Dieu-là. Tu es celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Encourage mes collègues pasteurs, encourage leurs épouses respectives, étends ta grâce sur leurs enfants, les jeunes qui sont à eux, les enfants plus jeunes, ceux qui sont convertis, ceux qui leur donnent du souci parce qu'ils sont encore impénitents. Encourage nos bien-aimés dans la foi, les diverses églises rassemblées ici ce matin, chaque foyer qui les compose, chaque membre, chaque chrétien qui compose ces foyers. Seigneur, donne gloire à ton nom. Nous prions pour qu'il y ait une grande bénédiction sur les églises, que nous ne puissions pas te déshonorer par nos doutes, nos hésitations, mais que nous osions croire ce que tu crois, attendre ce que tu attends. Tu nous veux avancer jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et nous te disons, Seigneur, nous avons faim et soif de cela. Nous le désirons ardemment. Permets-nous d'entrer et d'avancer dans ce programme-là pour ta gloire. Amen.